Le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Assouplissement des règles dans les EHPAD à partir d'aujourd'hui pour les visites familiales. Les résidents pourront accueillir plus de monde, mais ils ne sont toujours pas autorisés à sortir des établissements. C'est là que ça coince, vous l'entendrez.
Nous entendrons ensuite cet appel d'étudiants lyonnais. Le Crous leur demande de régler rapidement les loyers impayés pendant le confinement. Ils risquent l'exclusion.
Au Liban, c'est une lutte de tous les jours pour survivre face à la crise économique du moment. Le confinement n'a rien arrangé. Nous irons sur place.
Et puis nous interrogerons sur la présence possible de Juan Guaido dans l'ambassade française de Caracas. Ce matin, le Venezuela accuse Paris.
Enfin, quand les industriels se mettent à la démondialisation, c'est le thème du billet politique de Frédéric Seyss que l'on retrouvera après ce journal. Est-ce l'approche de la fête des mères ou l'accumulation de la frustration qui a fait plier les règles? En tout cas, à partir d'aujourd'hui, les visites dans les EHPAD sont légèrement assouplies. À l'extérieur des chambres, il sera possible de venir à plus de 2 personnes et les mineurs peuvent désormais rendre visite à leurs grands-parents. Car malgré le déconfinement, les résidents des maisons de retraite restent bien seuls. Yvan Plantaille s'en est rendu compte dans les établissements en Gironde.
À peine la porte d'entrée franchie et l'on aperçoit déjà plusieurs visites dans une salle.
Sur votre droite, vous avez la salle de restauration, une salle qui est climatisée et en prévision des fortes chaleurs des canicules et qui nous sert également pour la visite des familles.
Pascal Ramon est le directeur de l'EHPAD d'Ambarès et La Grave, à 30 minutes de Bordeaux. Il nous présente Micheline Massieu, une résidente. Aucune visite pour elle depuis bientôt 3 mois. Pas même ses enfants.
J'ai vu mon fils, j'ai vu ma petite fille. Ça m'a fait plaisir. Mais c'est pas comme quand ils viennent dans la chambre.
C'est-à-dire ?
Je les vois, donc je suis contente, mais ils sont pas près de moi.
Toujours en Gironde, mais dans l'établissement de Vert, près de Libourne, nous rencontrons Madeleine Augendre. Ses proches sont venus la voir depuis le déconfinement, mais ses visites n'ont pas la même saveur, selon elle.
Comme ils sont loin, ils peuvent pas venir. Ils ont une heure de route. Alors ça en vaut pas le coup, c'est pas intéressant. Alors ça fait que je ne les vois pas.
Dès aujourd'hui, elle pourra les voir dans le jardin de l'EHPAD si les conditions météo sont réunies. Mais ce n'est pas suffisant pour Pascal Chanvert, le président de l'ADPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées.
Il faut que les personnes âgées des établissements puissent sortir comme tous les Français. Bien sûr, il faut qu'ils puissent sortir avec un masque, en respectant les mesures barrières. Et puis il faut que les personnes âgées qui vivent en établissement puissent aussi aller visiter leur famille.
Il craint que les visites deviennent trop compliquées et donc que les seniors soient plus isolés. Selon une étude, seuls 4% des plus de 60 ans n'ont eu aucun contact depuis la mi-mars. Cela représente plus de 700 000 seniors.
Et face aux critiques, le ministère de la Santé rappelle près d'un EHPAD sur deux actuellement dans le pays est encore touché par le nouveau coronavirus. Et quand certains aimeraient déconfiner un peu plus, d'autres sont menacés d'expulsion. À l'université de Lyon 2, le Crous vient d'envoyer des relances de loyers pour tous ceux qui ont eu du mal à les régler ces derniers mois. Si les étudiants ne paient pas avant le 1er juillet, ils perdront leur logement. Logement qui n'est déjà pas très confortable, Annabelle Grelier.
Sur le campus, un ensemble de grandes barres de 4 à 5 étages, le Crous, la résidence Alix, du studio à la chambre de 9 mètres carrés, cuisine et sanitaire commun, bref, pas le grand luxe. À l'intérieur, c'est guère plus réjouissant.
Notamment au niveau du matériel qui ne fonctionne pas, de l'insalubrité, des cafards, des punaises de lit.
Craig Henrich, étudiant en sciences sociales, est en colère. Et il y a de quoi, de telles conditions de vie sont devenues un cauchemar pendant le confinement. Après le départ de nombreux étudiants chez leurs parents, Leïla, étudiante étrangère, s'est retrouvée bien seule.
C'était dur, j'ai déprimé pas mal de fois parce que je me suis sentie isolée et il y avait beaucoup de peur, il y avait parfois de la panique, enfin j'arrivais pas à dormir parfois le soir, il y avait pas mal de chambres qui étaient vides dans mon couloir, donc il y avait pas aussi ce contact humain, on était tout seul, on était isolé en fait.
Avec 4 cas de coronavirus déclarés dans la résidence, c'est Malik, étudiant boursier du ministère des Affaires étrangères, que le Crous a dépêché pour distribuer des masques avec son association Brother and Sister, un Crous qui n'a semble-t-il pas briller par son dévouement.
Alors moi, c'est pas bien parce que pour moi, la vocation de Crous, c'est de venir en aide aux étudiants, essayer de les accompagner, de voir comment, en ces périodes difficiles, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider les étudiants. Mais ils n'ont rien fait à part de leur demander à payer leur loyer, ce qui est irresponsable pour moi.
Sans tenir compte de la situation exceptionnelle provoquée par cette crise sanitaire, le Crous demande désormais aux étudiants de payer leurs arriérés de loyer avant le 1er juillet, sous peine de perdre leur logement l'année prochaine. Une situation situation alarmante pour Craig Heinrich du comité de lutte de Bron.
Leur situation, elle est atroce. Aujourd'hui, ils ont une volonté de s'organiser. Ils ont fait appel à nous justement pour ça, parce que ils sont pas entendus, parce que on ne les écoute jamais. À chaque fois qu'ils essaient de parler, on les censure. Ça devient très compliqué pour eux. La pression, elle augmente constamment. Au final, on se retrouve avec des étudiants de plus en plus dans la détresse qu'on n'aide absolument pas.
Si la direction leur conseille de réclamer des aides sociales, les étudiants, eux, font circuler une pétition. Ils réclament l'exonération des 3 mois de loyer qu'ils n'ont pas pu payer pendant le confinement.
Et notez que la crise du logement est encore plus vaste en France. Elle touche particulièrement les locataires. À ce propos, vous pouvez retrouver sur notre site internet un article intitulé « Une bombe à retardement » qui est à retrouver sur franceculture.fr. Si 90% des écoles sont désormais ouvertes, un élève sur 6 en moyenne seulement a retrouvé le chemin de l'école, soit 1 800 000 au total depuis le 11 mai dernier. Ces chiffres ont été précisés hier soir par le ministère de l'Éducation nationale, qui souligne aussi qu'un effort particulier a été fait pour la voie professionnelle dès cette semaine. 23% des deuxièmes années de CAP et 35% des élèves de terminale en bac pro sont mobilisés. Pour les jeunes en apprentissage, le gouvernement va par ailleurs débloquer plus d'1 milliard d'euros. Cela passera notamment par des aides aux entreprises entre 5 et 8 000 euros pour tout apprenti embauché entre le 1er juillet et le mois de février l'année prochaine. L'exécutif qui a aussi précisé hier un calendrier pour trouver des solutions à la crise de l'emploi en France. Le chômage partiel sera rediscuté avec les partenaires sociaux la semaine prochaine. L'assurance chômage le sera également d'ici l'été. Que va devenir la mutuelle sociale agricole, la MSA? La Cour des comptes l'estime en déclin structurel, ce qui a provoqué hier l'ire des syndicats agricoles et autres instances de la profession. Ils ont publié un communiqué commun à ce propos, car il est difficile de ne pas voir dans le rapport de la Cour des comptes un parallèle entre la possible disparition de la MSA et celle de la profession d'agriculteur, Anne-Laure Chouin.
Quand la mutuelle sociale agricole est créée en 1930, la France est majoritairement rurale, mais le monde paysan français est déjà en pleine crise. La MSA regroupe alors l'assurance maladie, maternité, décès et vieillesse des salariés agricoles. Et lorsqu'est créée en 1945 la sécurité sociale, le monde agricole fait valoir sa capacité à gérer seul son propre régime, qui s'étend petit à petit à tous les risques. Mais avec les années, le nombre de paysans s'effondre et la MSA doit faire face au vieillissement d'une profession dont la plupart des membres seront à la retraite d'ici 10 ans, alors que les nouveaux assurés sont de moins en moins nombreux. C'est ce déclin structurel que pointe la Cour des comptes, qui estime également que la protection agricole n'est pas suffisamment bien gérée et que sa gouvernance, dominée par les syndicats agricoles majoritaires, n'évite pas de potentiels conflits d'intérêts. La Cour propose donc de rapprocher la MSA du régime général de la sécurité sociale. Pas tout de suite, car une autre fusion compliquée est déjà en cours, celle avec le RSI. Le monde agricole, lui, estime que faire disparaître les antennes de la MSA en France, ce serait porter un coup fatal à ce qui est, selon lui, l'un des derniers services publics de proximité pour la population rurale.
Les agriculteurs qui demandent par ailleurs un plan de relance pour se relever de la pandémie et pour garantir surtout la souveraineté alimentaire. Une revendication soutenue par un rapport du Sénat qui doit être publié aujourd'hui.
8h08 sur France Culture. Au Liban, le confinement a accentué la crise économique et financière.
Oui, la pire crise de l'histoire du pays. En mars déjà, le Liban avait fait défaut sur sa dette, parmi les plus élevées du monde. Sa monnaie, la livre libanaise, a dégringolé. L'inflation galope, le système bancaire est en faillite. Et au milieu de tout ce marasme, la population subit. Plus de la moitié des Libanais vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Écoutez par exemple le témoignage de Victorine, 72 ans, désormais incapable de payer toutes les factures et la nourriture.
Ce que j'avais, mon argent, que j'avais de côté, j'ai dépensé tout. Il y a un téléphone, loyer, il y a l'électricité, il y a l'eau, tout ça. C'est difficile. Je n'ai plus de l'argent. Même pour le loyer, n'importe quoi, c'est mon frère qui m'aide.
Est-ce que vous auriez imaginé arriver à ce niveau?
Non, jamais. Jamais, jamais.
Vous êtes déçu? Vous en voulez aux responsables politiques, par exemple?
Oui, oui. Tellement déçu. Moi, je travaillais 47 ans, maintenant 72 ans, j'ai. C'est triste parce que moi aussi, je vois beaucoup des vieux, des vieilles qui sont plus que moi.
Vous pensez que la situation va être encore plus difficile? Vous savez que le pays subit une crise.
Oui, oui, plus difficile, en pire. Qu'est-ce qu'on va faire? On prie, toujours on prie pour que Dieu nous aide, nous donne le courage.
Des propos recueillis par notre correspondant à Beyrouth, Aurélien Colli, que nous retrouverons d'ailleurs ce soir à partir de 17h sur France Culture pour le grand reportage « Le Liban au bord du gouffre », un grand reportage réalisé grâce à Annie Brault. Il sera présenté par Aurélie Kiefer. Arrêtons-nous à présent sur cette affirmation du ministre des Affaires étrangères vénézuélien. Le chef de l'opposition, Juan Guaido, dit-il, se trouverait dans l'ambassade de France à Caracas. Pas de confirmation ce matin côté français, mais les relations sont assurément très tendues entre Paris et le pouvoir du président Nicolas Maduro, Franck Madvon.
Lundi, le président Nicolas Maduro avait lui-même déclaré que Juan Guaido était caché dans une ambassade. Réponse de Guaido sur Twitter, il te mente. Cette fois, un ministre assure donc qu'il s'agit de l'ambassade de France. Une situation profondément irrégulière, dit-il, une honte pour la diplomatie de la France. Il prend aussi pour cible l'Espagne, dont l'ambassade accueille depuis des semaines un autre opposant, Leopoldo López. Côté français, pas de confirmation de la présence de Guaido à l'ambassade. Personne n'est joignable ce matin au Quai d'Orsay. Une certitude, la France est dans le viseur du camp Maduro. Elle fait partie des quelques 50 pays qui ont reconnu l'an dernier Juan Guaido président par intérim. Maduro n'avait pas apprécié qu'en février, Romain Nadal, l'ambassadeur de France à Caracas, ait accueilli Guaido à l'aéroport à son retour d'une tournée internationale. Romain Nadal, dont la résidence a été privée d'eau et d'électricité le mois dernier, Paris a d'ailleurs officiellement protesté.
Depuis hier, son portrait apparaît sur la façade de l'hôtel de ville de Paris, portrait de l'universitaire franco-iranienne Fariba Adelkha. Il y a un an, elle était interpellée à Téhéran par les gardiens de la Révolution, incarcérée, puis condamnée récemment à 6 ans de prison pour collusion en vue d'attenter à la sécurité de l'État pour propagande contre la République islamique. Les demandes de la France pour la libérer ce matin encore n'y ont rien changé. Une campagne de soutien est lancée aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Lui a quitté l'Iran dans la soirée hier. Un prisonnier américain, Michael White, ancien militaire, a été libéré. Cela intervient quelques heures après l'arrivée hier également à Téhéran d'un scientifique iranien relâché par Washington. Cette nuit, et c'est assez rare pour être dit, Donald Trump a donc remercié l'Iran. Un signe, selon lui, qu'un accord est possible entre les deux puissances ennemies. Donald Trump, dont la cote de popularité baisse à 5 mois de la présidentielle américaine. Sa gestion des manifestations en soutien à George Floyd a été critiquée ces derniers jours. Sur place, sachez par ailleurs à Minneapolis qu'un hommage a été rendu à George Floyd hier. George Floyd, afro-américain, asphyxié il y a 2 semaines par un policier blanc. Hommage donc hier soir, éloge funèbre même, en présence de milliers de personnes, de la famille, responsables religieux, politiques ou célébrités, et notamment Al Sharpton, une figure des droits civiques aux États-Unis qui a électrisé la salle.
Ce qui est arrivé à Floyd arrive tous les jours dans ce pays, dans les secteurs de l'éducation, des services de santé, dans tous les aspects de la vie américaine. Il est temps pour nous de nous lever au nom de George et de dire « Enlevez vos genoux de notre cou ».
Des applaudissements donc hier à Minneapolis pour une prise de conscience, mais également une période de silence observée, période de silence de 8 minutes et 46 secondes, le temps pendant lequel le policier est resté agenouillé sur le cou de l'afro-américain avant qu'il ne succombe. Et l'émotion a traversé l'Atlantique ces derniers jours, d'autant que le débat est vif en France autour de la mort d'Adama Traoré, 4 ans après son décès lors d'une interpellation, là aussi. Hier, plus de 2000 personnes ont manifesté à Lille contre les violences policières et contre le racisme. J'ajoute aussi qu'à Strasbourg, l'IGPN a été saisi ces derniers jours pour une vidéo où l'on voit un policier frapper un gardé à vue. En cette journée mondiale de l'environnement, respirons un petit peu en cette fin de journal. Respirons dans un endroit qui nous avait plutôt habitués à dégager un épais brouillard de pollution. Près du périphérique parisien, sur l'un des toits du parc des expositions de la Porte de Versailles. En lieu et place d'un toit bétonné, un espace de biodiversité a été créé. Il s'agit d'une ferme urbaine, 14 000 m² de plantations pour des restaurateurs et des magasins du quartier, et également pour des particuliers, Véronique Roberotte.
Marie découvre la vue imprenable sur Paris. Cette jeune retraitée du 15e arrondissement ne regrette pas son investissement, 500 euros l'année, pour 2 bacs en bois, en hauteur, déjà plantés.
C'est quoi ça?
Ça c'est de la blette.
Ah, c'est de la blette.
Du persil, de la ciboulette.
Ça va être mon petit jardin, voilà, comme j'ai pas de balcon. Je suis intéressée aussi par le fait d'avoir des aromates.
dire ça vient de mon jardin. En plus, bon, je pense qu'on va se rencontrer, on échangera nos trucs, enfin, c'est plein de bonnes choses tout ça.
Camille, maraîchère en chef, pourra la conseiller. Elle s'occupe des plantations du jardin, entièrement hors sol, comme ces 16 000 pieds de fraises.
Là, oui, on a commencé la semaine dernière à récolter nos premières fraises. Nos fraisiers poussent sur un système de colonnes qui s'appelle l'aéroponie, avec à l'intérieur de cette colonne de l'air, uniquement de l'air. L'eau vient doucher les racines à l'intérieur de la colonne et qui apporte tous les nutriments directement sur la racine. Il n'y a pas de terre du tout.
La proximité avec le consommateur, c'est ce que met en avant Sophie Hardy, la directrice de Nature Urbaine.
Ça permet d'être en circuit court, donc d'avoir des produits qui sont immédiatement disponibles auprès du consommateur. Ils sont cueillis à maturité, voilà. Ils n'ont pas mûri dans les frigos. Ce qui est très intéressant, c'est que ça permet de lutter contre les îlots de chaleur. Et puis on sait aussi la biodiversité qui revient. Quand on est arrivé sur la toiture du hall 6, il n'y avait pas d'insectes. Et là, on a à nouveau des papillons, des coccinelles, des abeilles, des bourdons qui contribuent aussi à faire vivre toutes nos cultures.
Les fruits et légumes récoltés seront vendus et même dégustés dans un restaurant sur place.
Un petit bout de nature encore et de culture surtout. Je vous indique ce matin la réouverture du château de Chambord dans le Loir-et-Cher après 2 mois et demi de confinement. Et avant, surtout, la réouverture d'un symbole prévu demain, le château de Versailles. Et pour en profiter, il faudra passer entre les gouttes ce vendredi encore. Météo France prévoit un temps légèrement humide sur tout le pays, excepté près de la Méditerranée. Cela va s'estomper pour le week-end. Ce matin, comptez 14 degrés à Strasbourg, Lille et Paris, 17 degrés à Bordeaux et Lyon, 21 degrés à Nice.